Bonjour tout le monde, bonjour bonjour. Quel bonheur de vous retrouver comme tous les mercredis pour votre émission Pierre qui roule vers vous. Nous sommes en direct sur O2 Radio 91.3 et vous pouvez nous réécouter ou nous écouter aussi en DAB+ et nous réécouter sur o2radio.fr. Vous avez toutes les émissions en podcast. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christine Chartier et Marie Butin qui viennent nous présenter l'émission très importante menée par l'association Clap Sud-Ouest. Bonjour Christine et bonjour Marie.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue à toutes les deux.
Merci, on est ravis d'être là.
Ah bah super, pareil, c'est un pur bonheur. On va parler un petit peu de l'association, le CLAP. On va commencer d'ailleurs par ça.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Tout à fait. Alors le CLAP est une association, une vieille association, 1993, issue d'un réseau national. Aujourd'hui, il n'existe plus qu'un CLAP sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est le nôtre.
Oui.
Créé en 93. Alors c'est quoi les grandes missions, hein? C'est tout ce qui est lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme.
Oui.
Et nous intervenons donc sur l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Avant de passer la parole à ma collègue, donc on est une association financée par différentes collectivités territoriales, communes, communautés d'agglos, politiques de la ville, conseil régional, conseil départemental et fonds européens. Je vais me permettre une petite parenthèse, parce que notre venue ici, c'est aussi... Pour notre approche militant, hein, puisqu'on traverse, comme beaucoup d'associations, malheureusement, des difficultés assez importantes, hein, financières. Oui. Il n'empêche qu'on maintient notre action grâce à une équipe de salariés qui est toujours engagée sur le sujet.
Oui.
En tout cas, on est bien là et on est bien là pour parler de ces questions linguistiques qui sont fort importantes et essentielles.
Oui.
Tout à fait.
Et Marie.
Alors, donc moi je suis Marie Butin et donc je suis la référente pour le DPLAI, donc le dispositif permanent de lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme, pour la rive droite et le Grand Libournais.
D'accord.
Donc le DPLAI est un des secteurs phares du CLAP et notre mission c'est d'accueillir toute personne de plus de 16 ans qui aurait des besoins en formation linguistique,
oui,
au niveau du, enfin, par rapport au français.
Oui.
Donc voilà, donc on les reçoit, on a un entretien avec eux qui dure à peu près une heure, et suite à cet entretien et à quelques tests qu'on fait pour voir les compétences écrites, les compétences orales, etc., on essaye d'orienter vers la formation la plus pertinente vis-à-vis du niveau de français,
oui,
mais aussi vis-à-vis du profil pédagogique et des freins que l'on peut repérer, qui peut être la mobilité, qui peut être la garde d'enfants, etc. Donc vraiment, on essaye de trouver la solution la plus adaptée,
oui, oui,
pour les personnes.
Oui, vraiment pour cibler la formation adéquate.
Bah, c'est
quoi.
Ça, et puis par rapport à leurs demandes aussi. Hein,
oui,
le...
oui.
Et je parle du profil pédagogique, c'est important, parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais été à l'école.
Oui.
Donc les mettre sur des formations très scolaires,
très descendantes,
ça ne va pas forcément... il faut faire des sas.
Ouais.
Donc avec des associations ou avec des centres sociaux, etc. Donc c'est important d'essayer de cerner le profil d'apprentissage de la personne, vraiment.
Ouais, ouais.
De ce qui va lui convenir le mieux. Voilà, en sachant que ça peut prendre plus de temps, moins de temps. Enfin, voilà, c'est...
Oui, c'est souvent c'est vraiment à la carte, quoi. C'est par rapport
à chaque
personne.
On essaye de faire vraiment à la carte avec ce qu'on a et les liens que l'on peut avoir aussi avec tous les partenaires que l'on a sur le territoire.
Oui, oui.
Il y a un maillage très important avec les associations, les centres sociaux, les centres d'animation, les organismes de formation. Enfin, voilà, on est tout le temps en contact et on essaye vraiment de faire au mieux, même avec eux, hein, pour voir ce qui convient.
Oui, oui, oui. Et l'émission locale, parce que c'est là où j'ai eu la chance de vous connaître.
Voilà. Et ça, ce sont les partenaires.
Exactement.
Alors, exactement. D'ailleurs, donc là, on a parlé, alors on a quelques acronymes, donc le DPLAI, donc, qui pilote en fait ce qu'on appelle, nous, les plateformes linguistiques.
Oui.
Donc, on en a deux, une en Gironde et une sur le Limousin. Et on a un autre service, on en a trois là aujourd'hui, un autre service qui s'appelle le Centre Ressources Illettrisme Analphabétisme.
Oui.
Plateforme linguistique, on s'adresse directement au public. Le centre ressources illettrisme, ça a été l'objet de notre rencontre. C'est nous, en tant que professionnels techniciens, d'accompagner tous les professionnels qui ont besoin d'appui sur le déploiement de leur offre linguistique. Et puis, autre question, c'est plus particulièrement interpeller tous les acteurs, quels qu'ils soient, sur la question de l'illettrisme, qui est aujourd'hui, avec 2,5 millions de personnes en situation d'illettrisme, entre 18 et 65 ans. Ce sont des publics un peu mal identifiés, invisibles, qui traversent souvent une honte de leur situation et sur lesquels on a tout un travail, tous ensemble, de repérage et puis de réconcilier, en règle du temps, les publics avec ce réapprentissage, puisque c'est un vrai, entre guillemets, handicap dans la vie quotidienne, mais aussi professionnelle.
Et voilà. C'est ça, oui. Parce que 2,5 millions, c'est les repérés, ceux qui sont déclarés.
Alors, ceux qui ont été... Il y a eu une dernière étude là, qui est sortie de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Des chiffres issus d'une enquête INSEE, directe au foyer des personnes. Donc, on va dire que c'est une estimation auprès d'un échantillon, etc. Finement, on va dire, en termes statistiques, pour nous en donner une idée. Mais la question, elle est bonne, parce qu'effectivement, qui dit public invisible, dit difficile à quantifier. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la moitié des personnes en situation d'illettrisme sont en travail, au travail.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, ils ont développé des compétences autres incroyables,
oui, c'est
d'adaptation. Voilà. Par contre, dès qu'il y a un gravillon, on va dire, dans le système, réorganisation, changement de process, etc., ou difficultés de santé et reclassement, les personnes sont en très grande difficulté. Et puis dans la vie quotidienne, ça nécessite, en règle générale, c'est des personnes qui ont toujours une personne tierce qui vient aider, parce que faire une démarche administrative ou autre, lorsqu'on ne sait pas lire et écrire...
Ça doit être franchir une montagne, ça, c'est...
Ah ben c'est...
C'est impossible.
C'est très compliqué, oui. Après,
revenir sur la définition, peut-être.
Oui, la définition, donc public en situation d'illettrisme, c'est des personnes qui ont été scolarisées de façon significative, c'est-à-dire au moins jusqu'à la fin primaire.
D'accord.
Donc, on ne parle pas des personnes qui ne sont jamais allées à l'école.
Oui.
Vraiment, les personnes qui sont allées à l'école et qui, en sortant de l'école, n'avaient pas les compétences en savoir de base, que ce soit français, maths, voilà.
Oui.
Et c'est vrai que le profil du public en situation d'illettrisme, il est mouvant. Quand Christine parle des 2,5 millions, ça fait à peu près 10% de la population.
Oui.
Nous, sur la plateforme, chaque année, on est entre 4 et 5% de personnes en situation d'illettrisme. Par rapport à notre total, c'est environ 70 personnes par an. Ce qui paraît peu, mais qui en fait est assez énorme.
Oui.
On devrait peut-être être à 10%, donc ça veut dire qu'il y a quand même au moins 5% qu'on ne voit pas.
C'est ça.
En sachant que les personnes en situation d'illettrisme ont toujours un prescripteur. Ce n'est jamais en démarche personnelle.
Oui.
Donc nous, on est toujours en deuxième ligne, en fait. On est là pour appuyer le prescripteur, le partenaire, qui repère... Hein, parce que voilà, il repère, il nous l'envoie, on fait le travail avec la personne, on voit ce qu'il en est et on revient vers le prescripteur pour essayer de trouver la solution la plus adaptée.
Oui.
Hein, mais souvent, ces personnes-là sont repérées en amont, en fait.
Et oui.
On n'a jamais eu de personne ou une ou deux
porte,
qui toquent à la porte en disant « je ne sais pas lire et écrire, aidez-moi ».
C'est un repérage qui est
fait en amont. C'est un repérage en amont et c'est pour ça que les sensibilisations sont importantes parce que sans ça, on ne va pas y arriver.
Ah oui. Ben, je sais que nous, ça a été très utile. Enfin, on a ressenti quelque chose de très utile. Enfin, je sais qu'à la mission locale, quand vous nous avez présenté tout ça, déjà, les chiffres, c'est vrai qu'ils sont quand même impressionnants. Ça met en avant aussi. Moi, c'est ce que je trouve, quelque part beau. C'est vraiment ces compétences qu'ils arrivent à acquérir qui sont hallucinantes. Enfin, vraiment, c'est cette débrouillardise. J'aime bien ce mot. C'est quelque chose qui est bluffant, ça.
Oui, mais nous, sur l'évaluation, on est sur ce qu'ils savent faire.
Oui.
Hein, on n'est pas sûr à donner à ce qui manque, etc. C'est qu'est-ce que vous savez faire. Nous, on est là pour voir ce que vous savez faire. Et à partir de là, on avise.
Ouais,
de s'il y a besoin de plus, ou pas, si ce que vous faites, c'est déjà suffisant, bon, ben voilà, c'est pas de... Mais on est sur, vraiment sur les compétences de la personne, ce qu'elle sait faire.
Ouais.
C'est vraiment de l'évaluation qui est bienveillante. Et en plus, on fait encore plus attention. On fait déjà très attention, mais on fait encore plus attention sur les personnes en situation d'illettrisme, parce qu'on touche aussi à des sujets qui sont souvent difficiles.
Oui, oui.
Oui, c'est multifactoriel, hein, oui. La cause de l'illettrisme. Hein, donc c'est pour ça que des données chiffrées après, alors qu'elles sont très difficiles à obtenir, mais c'est malheureusement souvent un cumul de difficultés. Hein, donc c'est pour ça qu'on va retrouver des chiffres un petit peu plus élevés, quartier politique de la ville, etc., de personnes en situation d'illettrisme. Mais c'est vrai, pour que ça parle, moi je donne toujours l'exemple parce que je l'ai gardé en tête, alors c'était pas au CLAP, mais j'ai eu un monsieur, je travaillais en organisme de formation, qui a tapé à la porte un soir en me disant: il faut que j'apprenne à lire et à écrire en 48 heures.
Waouh, ok.
Voilà. Alors, on est bon, mais pas suffisamment pour... Et en fait, ce monsieur, en échangeant avec lui, en fait, il travaillait depuis un certain nombre d'années pour une entreprise. Et le jour même, il lui avait été proposé une promotion.
D'accord.
Mais une promotion qui allait impliquer, voilà, la lecture et l'écriture. Alors, je la raconte parce que c'est une belle histoire, en fait. Une belle histoire parce que, donc, il n'avait pas dévoilé sa situation d'illettrisme à son entreprise. Donc, je lui ai proposé, en fait, qu'on se rapproche ensemble de l'entreprise.
Oui. Ouais.
Voilà, pour qu'on mette en place de la formation, mais qu'il ne perde pas son poste, etc. Alors, quand je dis une belle histoire, c'est parce que l'entreprise a dit banco, en fait, hein, parce que ben, ce qui prévalait, c'était ses compétences.
C'est ça.
Voilà. Et de lui permettre effectivement de résoudre progressivement. Alors, le temps, c'est assez long. Hein, voilà, hein, on ne réapprend pas. Mais là, il y avait un vrai moteur. Hein, un moteur. Et puis, ben, la belle histoire, c'est qu'effectivement, il a gardé son poste. Et ce qui était en focus, c'était ses compétences.
Ouais.
Voilà. C'est avant tout ça. Quoi. Et donc, on imagine ce que c'est un système d'adaptation en poste de travail pour pouvoir le maintenir en ne mettant personne au courant de sa non-maîtrise. Je ne sais même pas si on peut
Il faut déconstruire avec eux ce que signifie l'intelligence, en fait.
C'est ça.
Oui.
Y en a de différentes sortes. Et voilà, il faut aussi prendre ce temps-là pour déconstruire aussi l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et aussi construire avec eux l'image qu'ils peuvent avoir de la formation.
Oui, oui.
Parce que, évidemment, on n'apprend pas de la même façon à 48 ans ou à 55 ans que quand on en a 15 ou 16.
C'est sûr.
Mais en même temps, peut-être qu'on peut apprendre mieux, parce qu'au fond, à 15 ou 16, eh ben, visiblement, ça ne marchait pas. Donc,
La motivation,
voilà,
peut,
la
être
motivation peut être différente.
C'est ça. Et l'accompagnement aussi.
Et l'accompagnement,
qui est
oui. Parce puis que... la formation pour adultes, c'est quand même pas la même chose.
Oui, 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 oui.
Et c'est vrai que l'expérience là, construite justement avec la mission locale des Hautes-Garonne était vraiment intéressante parce que on sensibilise ce qu'on appelle nous des sensibilisations hein, de partenaires en disant ben voilà comment quels sont les signaux on va dire qui peuvent permettre de repérer et puis quels sont les mots enfin comment on porte la chose auprès de la personne pour qu'elle se sente en confiance. Ce qui est intéressant avec la mission locale, c'est qu'il y a eu plusieurs étapes. Hein. Sensibilisation, quelqu'un au sein de la structure qui s'est approprié cette question, comment on peut s'approprier la question du handicap et d'avoir un référent illettrisme qui porte auprès des équipes cette question-là. De telle manière qu'on ait un interlocuteur et que ce travail soit vraiment en focus au niveau des équipes.
Oui.
Donc là, j'ai envie de dire que pour nous, c'est voilà, un exemple parmi d'autres, mais vraiment de travail qui est assez abouti. Il n'est pas terminé, mais en tout cas, parce qu'on peut sensibiliser la planète entière, en fait, enfin, voilà, d'aller chez chacun des partenaires, et Dieu sait s'il y en a. Mais l'objectif, c'est bien d'atteindre les publics.
Et c'est ça, ben oui.
Voilà.
La cible première, le Graal, c'est ça. C'est vraiment de...
Bah, oui, et le public jeune, on en parlait en arrivant là sur le chemin. pour pas qu'on ait des jeunes aujourd'hui qui ont, on va dire, un terrain déjà fragile,
ouais.
qu'on retrouve en tant qu'adulte en situation d'illettrisme, comme les publics adultes qu'on accueille plus majoritairement aujourd'hui dans cette situation-là. Que devons-nous faire ? Alors, on n'a pas les réponses à tout, loin de là,
ouais.
mais une des réponses, c'est de travailler en proximité avec vous, avec tous les acteurs de la jeunesse
oui,
hein,
c'est
aujourd'hui.
Hein. C'est vraiment le partenariat qui prime.
D'ailleurs.
Oui, parce qu'il faut sécuriser un parcours, en fait.
Voilà.
Voilà, ouais. C'est vraiment... puis c'est un marathon, hein, le fait d'apprendre à lire et à écrire.
C'est clair.
C'est pas un sprint. Hein, et ça, des fois, il faut un peu... remettre les objectifs. Donc voilà, dans un premier temps, on va arriver jusqu'à ce niveau-là, et puis après, dans un deuxième temps, ce niveau-là.
Ouais.
Mais il faut prendre son temps. Alors après, il y a des urgences qu'on ne maîtrise pas.
Hein.
Ça peut
oui.
être voilà, les urgences financières, d'autres urgences. Mais c'est des discussions que l'on a avec les personnes, oui.
Ouais.
Que c'est un marathon, voilà. Et il faut savoir aussi jusqu'où on veut aller.
Oui.
Voilà, est-ce que le but, c'est de pouvoir lire Balzac ou est-ce que le but, c'est de pouvoir lire des consignes, laisser un message à son chef d'équipe, voilà, ce genre
oui.
de choses. Parce que ça, voilà, il y a des objectifs qui sont atteignables en plus ou moins de temps, etc.
Donc, bien sûr, ouais.
C'est vraiment, il faut arriver à définir tout ça, oui.
C'est une ouais. super mission, en tout cas.
Oui, tout à fait. Hein. Mm. Et, je dis parce que la grande question, c'est comment en parler aux
c'est
personnes.
Ça, oui.
Bon, là, il y a un travail, je veux dire, qui n'est pas forcément scientifique, mais en tout cas, j'ai envie de dire, on libère la personne hein, à un moment donné d'avouer un poids qui est celui-ci, hein, dans
ouais.
une société où le savoir lire et écrire, je dirais, quand même fait référence, et d'autant plus quand on a été scolarisé, en fait. C'est,
oui,
c'est ça le sujet, en fait. Hein. On a été scolarisé. Mmh. Souvent, la question, c'est mais comment ça peut arriver, en fait
mmh.
Voilà.
Oui.
Bah, ça peut arriver de plein de manières, des questions de santé, des questions sociales, questions de décrochage scolaire à un moment donné, et puis de plus souvenir, en fait, au fur et à mesure des années. Enfin, il y a plein de choses qui amènent à cette situation-là.
Oui, oui, oui.
Oui, c'est un peu comme poser un diagnostic. Pour les personnes, ça permet... On le dit ou on le dit pas aux personnes qu'elles sont en situation d'illettrisme. On essaye de trouver des formulations, etc. On voit avec la personne que l'on a en face de nous, en fait, de comment elle peut prendre la chose.
Oui.
Des fois, ça peut leur permettre aussi de se dire « Ah bon, bah, c'est ça. Voilà. OK. » Et après, on explique aussi pourquoi. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. On essaye vraiment au maximum de déculpabiliser aussi. Hein. Et aussi d'enlever cette peur de la formation, d'être avec des personnes qui savent mieux, etc. Voilà.
C'est la comparaison avec l'autre.
Voilà, les formations qui sont financées par la région sur le dispositif HSP, elles sont bien en ce sens que c'est des personnes qui sont en situation d'illettrisme toutes.
Oui.
Hein, voilà, donc déjà, ça permet un peu de rassurer les personnes. Elles vont être avec des collègues qui vont vraiment avoir pas forcément les mêmes difficultés aux mêmes endroits,
oui.
mais du moins voilà, le même profil. Quoi.
Et le même objectif.
Voilà, le même objectif, le même profil.
Hein. Mmh.
Oui, c'est pour ça qu'il peut y avoir. Alors, c'est ce qu'on appelle, et ce qu'avec le conseil régional, on appelle, nous, les premières marches, en fait, de Yèvre. Petite première marche avant d'aller vers une formation, y compris HSP, qui peut passer par une étape individuelle. Enfin, il faut que la personne soit réassurée.
Oui, voilà. C'est ça.
Et de travailler sur ces formules qui correspondent vraiment au cas par cas à la situation de la personne. Quoi.
Oui, oui.
Voilà. Donc, il y a aujourd'hui, alors il n'y en a jamais assez, mais des opérateurs, des partenaires... qui sont vraiment sur cette question-là et qui sont là pour accompagner avec grande bienveillance. Parce que c'est, bon, une des clés, c'est la bienveillance. Hein. C'est
Mais
de
oui.
se remettre en confiance, de prendre le temps et pour que la personne gagne en liberté par rapport à ça. Parce que c'est, j'ai envie de dire, au-delà du travail, c'est de retrouver une autonomie ça. Qui n'ont pas.
Qui ne pas se sentir jugé, voilà. C'est aussi ce que la société peut renvoyer quand on a des difficultés comme ça.
C'est pour les raisons pour lesquelles, ils cachent. Hein. Et puis là, aujourd'hui, le grand sujet, c'est le croisement, même si ce n'est pas une cause et conséquence de la question du numérique.
Et oui.
Voilà, puisqu'on parle d'électronisme. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne peut plus faire un pas sans devoir lire, écrire, plus utiliser l'outil numérique, billet de train ou autre. Enfin, il y a de moins en moins de personnes physiques.
Oui, la poste, enfin, tous les trucs comme ça, c'est impressionnant.
Ah oui.
Si on ne maîtrise pas, c'est vrai qu'on est complètement perdu, quoi.
Oui. Alors, on peut ne pas maîtriser le numérique et ne pas être en situation d'illettrisme. Oui. Mais la situation d'illettrisme, bon, là, j'ai envie de dire, on veut se refaire faire une pièce d'identité.
Ou le comment dire, permis le chip de la carte grise. Moi, j'ai cru devenir folle. Hein.
Voilà.
Ah oui, oui. Oui, je suis d'accord.
Vraiment.
ANTS.
C'est ça.
Ouh là là.
Où est mon dossier?
C'est ça. Qu'est-ce que c'est?
Si on prend la gare de Bordeaux, l'accueil public, c'est à partir de 10h. Enfin, je sais, parce que je prends pas mal de trains. Ben là, je veux un billet. J'ai la borne qui me dit ce que je dois faire. Sauf que je ne sais pas lire.
Voilà.
Voilà. Donc, je demande de l'aide. Bon, à Christine, qui passait par là. C'est un exemple concret. Hein. Le monsieur m'a donné sa carte bleue, etc. Hein.
Ah ouais, c'est ça.
Voilà.
Et tu lui as pris un rendez-vous avec le CLAP?
Ah,
oui,
bonne question.
Il partait
en daï. Voilà.
Il ne s'est pas laissé faire.
Nous, ça nous met devant des réalités concrètes. Après, il me dit, c'est quel quai? Donc, le panneau d'affichage qui est en hauteur. Là, c'était... Alors, comment lui faire repérer? Le quai n'était pas apparu encore et moi, j'allais prendre mon train.
Ouais.
Donc, comment faire en sorte pour qu'il puisse... Bon, après, il n'y a pas trop de secrets. Hein. C'était l'aide d'une tierce personne qui allait prendre mon relais parce que les lignes bougent, etc.
Mais oui, c'est ça.
C'est problématique, quoi.
Ça doit être cauchemar de vivre ça.
C'est abyssal.
Oui, tout à fait. Hein. C'est abyssal. C'est ce qu'on peut connaître aussi quand on est dans un pays étranger dont on ne maîtrise pas du tout la langue.
Oui, mais on maîtrise certains codes. Voilà. À savoir qu'on va se repérer sur le billet, on va essayer de retrouver le même nom, plus ou moins, etc. Et puis maintenant avec le portable.
Ouais.
Oui.
Oui, sachant qu'il peut y avoir en plus associé des problèmes d'orientation, repérage dans l'espace, etc. Hein.
Aussi, oui.
Conduite de voiture, aller à un rendez-vous, etc.
Oui. Voilà. Les heures.
Oui, tout aussi, à fait. C'est
tellement
abyssal.
Incroyable.
Effectivement. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on tire le chapeau, je vais dire, sur la manière dont les personnes déploient de la compensation de cette difficulté-là.
Oui, oui.
Je compare beaucoup avec les personnes en situation de handicap. Hein. C'est-à-dire que nous, on utilise certainement pas tous nos potentiels, parce qu'on a tous nos membres, tout notre esprit, tout, etc. Et que une personne en situation de handicap va compenser le handicap par d'autres manières de faire.
Ouais. C'est ça qui est beau, aussi, de voir cette évolution, ce qu'on est capable de mettre en place.
Oui, tout à fait. Ça, pour moi, c'est vraiment très positif, mais il faudrait que les personnes concernées le sachent.
Mais voilà, oui, c'est ça. Et oui, parce que malheureusement, c'est pas l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, quoi.
C'est ça. Oui, tout à fait. C'est pas ce qu'on leur renvoie. Il y a quelque chose d'inconscient, mais aussi de renvoyer par la société dans son entier.
Oui, tout est fait pour des... Oui, c'est des réflexes, en fait. Ouais, savoir lire, écrire, compter. C'est tellement réflexe pour ceux qui ont cette maîtrise-là que quand on...
Dans la société occidentale, hein.
Presque. Oui. Ah oui, oui.
Oui,
quand même.
Et oui.
Oui, tout à fait.
C'est particulièrement marqué.
C'est particulièrement marqué dans la société occidentale. Hein.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, après, on se dirige plus vers l'analphabétisme, mais
Oui. C'est vrai que c'est notre référence à nous, en tout cas, tout cas en France, si on se borne, en tout cas à notre pays, oui, c'est une référence.
Oui, oui.
Après, il y a d'autres pays où, voilà, en tout cas, ce système un petit peu d'aide de communauté, où il va y avoir ce système déjà posé, on va dire, de personnes qui détient la lecture et l'écriture. Mais là, ça veut dire qu'il y a un système de solidarité mis en place, etc., dans un pays comme le nôtre, où quand même il y a pas mal de complexité. Il y a à la fois des droits, plein de choses merveilleuses, mais il y a aussi des complexités.
Oui, oui.
Éventuellement administratives.
Non. Bah, c'est tellement simple. Bah,
ouais, mais c'est vrai que quand on va à l'école de Jules Ferry, c'est un énorme progrès, hein, l'école pour tous, voilà, l'égalité des chances.
Ouais.
Mais en fait, ça crée aussi de grosses inégalités et des personnes qui, quand elles sont laissées sur le bord de la route, bah, elles y restent.
C'est ça.
Elles y restent et elles ne comprennent pas pourquoi elles y sont. Mmh. Et oui. Pourquoi l'école qui était censée les aider, bah, les a laissées là.
C'est ça.
Aussi.
Ouais.
Donc,
oui, l'enseignement qui n'était pas forcément adéquat pour telle ou telle personne aussi. Enfin, c'est vrai que c'est tellement...
Après, ça peut être des troubles ou des 10 qui n'ont pas été repérés à cette époque-là. Enfin, je veux dire, moi, je suis des années 80. Oui, c'est tout.
Pardon.
Enfin, 80, j'ai commencé l'école. 80, j'ai commencé l'école primaire, on va dire. Voilà, la maternelle même. Mais voilà, on a fait d'énormes progrès là-dessus, ça c'est sûr. Hein. Moi, je le vois bien. Hein. Ma belle-sœur, ma nièce est à moyenne section, une petite section, je crois. Et déjà, elle est chez l'orthophoniste.
Oui, ok.
Donc, j'étais d'accord.
Ouais.
La maîtresse a dit oui, les troubles, machin, etc. Donc, si moi... à mon époque, en tout cas. Et donc, je suppose qu'avant, c'était pas beaucoup mieux. Mais voilà, il y a énormément de facteurs qui expliquent l'illettrisme. C'est pas forcément l'enseignement, en fait. Hein.
Oui, oui.
Parce que, bon, alors, je crois que dans les 2,5 millions, il n'y a pas la communauté du voyage.
Non, il n'y a pas les personnes qui sont incarcérées.
Et la communauté du voyage.
Ah oui, donc oui.
Qui a un profil de personnes en situation d'illettrisme qui est assez particulier, parce que pour en avoir évalué plusieurs sur le territoire du Grand Libournais il y a un an de ça, en fait, il y a très peu de honte.
Oui, ok.
Ils savent que l'école, elle n'était pas faite pour eux.
Ouais.
Voilà. Et que de toute façon, l'école ne les considérait pas. C'est ça qui ressort, en fait.
D'accord.
Qu'il n'y avait pas de considération. Moi, j'en ai plusieurs adultes, hein, de quarantaine d'années, qui m'ont dit « Mais moi, on me mettait au fond de la classe, on me faisait dessiner. » Parce que, en plus, sur le territoire du Grand Libournais, ce sont des... pas des nomades, on dit pas des nomades. Enfin, ils sont pas sédentaires.
D'accord.
Donc, voilà. Mais par contre, il n'y a pas cette honte que l'on peut avoir. C'est moi, je sais pas trop lire, je sais pas trop écrire. Alors, après, on en discute, mais... Mais c'est vraiment différent chez les gens de la communauté du voyage.
Oui,
c'est assez particulier.
Oui, alors cette notion un petit peu de solidarité aussi, d'appui.
De communauté, oui.
Ouais. C'est vrai qu'il y a différentes choses qui entrecroisent effectivement cette communauté, et pas ce même rapport, et puis des rapports un peu compliqués, oui, avec l'école. Hein. Enfin, bon, parler de discrimination, et faut un petit peu le dire. En tout cas, le fait, là, dans ces exemples-là, le fait qu'ils soient devant nous, c'est top, parce qu'il y a une envie d'apprendre.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui.
Ouais.
C'est le premier déclic.
Oui, et puis vraiment, sur le Grand Libournais, il y a eu vraiment un très joli travail avec la MDS de Coutras.
D'accord.
Qui a repéré les personnes lors des matinales de l'insertion qu'ils organisent sur le territoire.
Ouais.
Et on les a eus en entretien, on les a envoyés en formation. Et les personnes ont été tellement contentes qu'après le pèlerinage qu'elles font à partir du mois de mars, elles ont voulu revenir en formation.
D'accord, oui.
En fait.
Donc, hyper positif.
Oui, c'était vraiment... on a explosé les scores. Sur le territoire du Libournais, on était pratiquement à 10%. D'accord. De personnes en situation d'illettrisme repérées, évaluées, etc.
Ah oui, ouais.
On avait le plus gros taux par rapport à la Gironde, ouais, okay. sur notre plateforme.
Oui,
mais c'est ce travail, comme je vous dis, c'est ce travail avec les partenaires, en fait. Hein,
ouais.
Parce qu'elles ont été repérées voilà, en amont.
Mmh. Et là, c'est clair que c'est aussi le grand sujet donc, du centre ressources illettrisme, mmh. analphabétisme. On est, on va dire, porteur de la feuille de route aussi du conseil régional, hein, dont c'est la compétence, hein, l'illettrisme,
oui.
Qui nous fait confiance, hein, de pouvoir déployer justement cette lutte contre l'illettrisme, appuyer plus, hein, tous les partenaires, identifier bah, des référents illettrisme, enfin, de continuer à sillonner toute la Nouvelle-Aquitaine. Sachant que niveau Poitou-Charente, on a un partenaire qui s'appelle Coraplis, hein, qui agit plus particulièrement sur toute la zone Poitou-Charente. Et on s'interconnecte et puis effectivement, bah, on va là auprès de l'ensemble des partenaires et prescripteurs. France Travail, mission locale, puis bah, tous les acteurs qui accueillent du public, en fait, au sens large du terme, en fait,
oui, voilà.
qui sont en contact. Hein. Donc, j'ai envie de dire, ça va les services publics jusqu'à services publics, ça peut être les mairies, ça peut être. Enfin bon.
Oui, c'est vaste.
Oui, la difficulté, c'est ça. C'est très, très vaste, en fait. Donc, il faut trouver vraiment les points d'appui.
Ouais.
Pour qu'il y ait une vraie opérationnalité derrière et qu'il y ait un impact public. Quoi.
Mmh, mmh.
Voilà, on ne nous arrête pas, hein, sur le sujet.
Ah non, mais c'est génial. C'est hyper. Enfin, je trouve déjà, le combat est plus qu'utile. Voilà, hein, c'est quand même hyper important de conserver ça. D'où j'espère que voilà, l'association va être bien soutenue. Continuer d'être soutenu. écoutez, ce que moi je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale.
Mm-hmm.
On va écouter. Qu'est-ce qu'on va écouter? Cat Choice Day. Ça fait longtemps. Ouais. Petit côté. Je sais pas. Ouais, nostalgique. Ben, c'est parti. Breathe. Bon, bah, sans le savoir, on a tapé juste avec Marie, qui était fan de Ketchoice aussi.
Oui, exactement.
Voilà, cadeau.
Grande fan.
Ouais, moi, je comprends. Moi, j'écoutais en boucle, ça, c'est incroyable.
C'est meilleur groupe belge, ouais. Rock, de cette période-là. Il y avait Mudflow, il y avait Case Choice, Vénus.
Alors, vous avez la chance d'être sur une nouvelle émission.
Voilà, c'est ça.
Non, un petit décrochage musical.
Un petit crochet comme ça, chac.
Un petit crochet. Mais on leur demande s'ils écoutent de la musique dans les entretiens. C'est une porte d'entrée parfois.
C'est vrai. La musique est importante dans nos vies, à tous d'ailleurs.
Oui, et puis ça questionne la connexion même avec le champ culturel que l'on peut avoir, mais peut-être pas suffisamment dans le cadre de nos activités, que ce soit les médiathèques, les bibliothèques, enfin tous ces vecteurs effectivement d'expression qui permettent de faire un pas de côté. Donc là, je pense qu'il y a des boulevards encore à ouvrir. Bon, celui qu'on ouvre là plus particulièrement, alors, c'est celui de travailler avec les bibliothèques, les médiathèques. Voilà, parce qu'ils ont des espaces dédiés. C'est aussi permettre au public de franchir cette porte qui est celle d'une bibliothèque dans laquelle il y a des livres. Donc là, c'est en tout cas la culture, l'expression musicale. Et puis, bon, on va peut-être parler d'autres publics que l'on reçoit aussi aujourd'hui ou structures qu'on accompagne dans le cadre du Centre Ressources Illettrisme. Donc il y a une richesse culturelle qui est énorme aussi. Ce sont des rencontres culturelles pour le coup avec les publics. Et sur lesquels il ne s'agit pas de dire à la personne tu abandonnes ça pour aller vers ça. En fait,
Oui. C'est pas de faire un choix, c'est de continuer d'avancer.
Exactement, oui. Bon, je sens que Marie, après cet intermède musical qui lui correspondait totalement, va pouvoir nous parler donc des profils pédagogiques dont on parlait en début d'émission pour remettre des bons termes aussi.
Oui, parce que donc nous, sur la plateforme, donc on accueille toute personne de plus de 16 ans. Là, au 23 octobre, on était à 7% de personnes de nationalité française.
Oui.
Alors, des personnes nées en France et des personnes naturalisées françaises.
D'accord.
Tous ensemble. Et 93% d'étrangers.
D'accord.
Donc, les profils pédagogiques pour les personnes... Alors, né en France, scolarisé en France, ça va être donc illettrisme, ce qu'on appelle RAN prime, qui est un post-illettrisme.
Oui. Hein,
et RAN, remise à niveau, le RAN, c'est pour la remise à niveau, qui va être donc au-delà, vraiment, les personnes qui ont un besoin vraiment ponctuel, avec pas de grosses lacunes, pas de grandes lacunes. Et pour les étrangers, donc là, on est plus sur le cadre européen commun des langues, qui va du... Alors, pour la France, c'est un peu une exception, du A1.1 au C2.
D'accord.
Avec A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc, pour donner un exemple, le A1, c'est quand on passe par l'OFI, les personnes qui n'ont pas atteint le A1 ont des cours gratuits.
D'accord.
Voilà. Le A2, c'est le niveau, on va dire, de formation qualifiante premier niveau.
Ok.
On va dire, voilà. Le B1, et c'est le niveau aussi qui est demandé pour le moment, pour la carte de résident.
D'accord, oui.
La carte de 10 ans.
Le A2.
Le A2.
Ok.
Le B1, c'est le niveau qui est demandé pour la naturalisation.
Oui.
Hein, le niveau de connaissance de langue française. Pour la naturalisation. Et il me semble que c'est aussi le niveau qui est demandé pour entrer en première année de fac.
D'accord, ok.
Et ensuite, le B2, ça va être du master. Et C1, C2, ça va être vraiment... Alors là, on est en plus sur l'enseignement. Enfin, voilà.
Ok, oui.
En sachant qu'il va y avoir un changement. Alors, on ne sait pas encore quand, parce que... On ne sait pas si le décret est passé, mais il devrait y avoir un changement au niveau des cartes de 10 ans et pour la naturalisation, où pour la 10 ans, on va demander le B1.
D'accord.
Et pour la naturalisation, le B2.
Ah oui, ok. Oui, donc ils montent d'un cran.
Ils montent d'un cran et ça met un peu toujours sur le bord de la route certains profils, dont les alphas, donc les personnes analphabètes qui n'ont jamais été scolarisées et qui pourraient atteindre un B2. C'est un peu l'Everest. Hein.
C'est ça, oui.
En tong.
En tong, oui, en plus. Oui. J'aime bien l'image.
Et sans oxygène.
En plus. Ah oui, rien, quoi.
Voilà.
C'est... On reste en bas.
C'est compliqué.
Ah ouais, non, c'est dingue.
On peut, hein. Vraiment, tout est possible. Et vraiment, les personnes, des fois, sont assez exceptionnelles et on est souvent bluffés.
Ouais, ouais.
Mais quand même, pour la majorité, ça va être très, très compliqué. Et même le B1. C'est quand même... parce que ce sont des formats d'examen qui sont faits de façon internationale, en fait. Hein, parce que le B1, c'est partout dans le monde, hein, le même examen, etc. Okay. Mais du coup, c'est pas du tout adapté pour les personnes qui sont en France, qui vivent en France, qui sont intégrées en France, etc. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très... Ça correspond, c'est oui, un peu comme un public d'Alliance française, quoi, voilà, pour aller dans le pays, pour un peu pouvoir discuter, etc. Mais ça correspond pas forcément aux compétences que les personnes ont pu acquérir en France, en étant en France, et qu'elles peuvent mettre à profit, hein, en plus, hein, et qui travaillent, etc. Mais parfois, le format de l'examen leur fait défaut, en fait.
C'est dingue, ça. Ouais.
Pas tout le temps, hein, parce qu'il y a des associations qui ont pris ça en main, qui proposent des préparations. Il y a des choses qui sont faites, hein, parce qu'il y a beaucoup d'associations ou de centres sociaux qui ont pris à bras le corps ce souci-là de préparer, faire des sortes de delphotage, hein, des sessions assez courtes pour que les personnes ne soient pas prises à dépourvu par le format de l'examen, parce que des fois, c'est le premier examen qu'elles passent de toute leur vie.
Ben c'est ça, c'est ça.
En tout cas, Bordeaux et Rive-Droite, il y a des associations qui sont là, qui font un travail formidable. Mais on est toujours... il y en a toujours quelques-uns qui sont sur le bord de la route, quoi, ça c'est sûr.
Ouais.
Mais pour venir sur les profils pédagogiques, donc pour les étrangers, donc, on a le profil qu'on dit alpha, donc les personnes qui n'ont pas été scolarisées, enfin jamais scolarisées ou très peu scolarisées, donc moins de 5 ans.
Okay.
Donc n'ont pas les codes de l'écrit, hein, ni de la lecture. Les profils post-alpha. Qu'on appelle FLE prime. Eux, ils ont été scolarisés, on va dire, jusqu'au collège.
Oui, ok.
Voilà, collège. Mmh. Après, en sachant que la scolarité, enfin, on parlait de société occidentale, la scolarité n'est pas la même dans tous les pays.
Mais c'est ça.
Donc, des personnes peuvent être allées jusqu'au lycée et être sur un profil FLE prime parce que l'enseignement n'était pas aux mêmes normes, on va dire, que ce à quoi on s'attend. Voilà. Et puis FLE, français langue étrangère, donc le FLE, où là, c'est les personnes scolarisées de façon significative, donc lycée et au-delà.
D'accord.
Voilà. Et pour chaque, y a des apprentissages qui correspondent.
Tout simplement.
Voilà. Et puis les demandes ne sont pas les mêmes. Souvent, les personnes en situation d'analphabétisme ont envie de lire et écrire. Alors, quand elles maîtrisent la langue, on a déjà enlevé un frein.
C'est ça.
Et quand elles arrivent analphabètes, sans maîtriser la langue, sans maîtriser les codes de l'écrit... On se rajoute une charge, hein, sur la montée de l'Everest.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
On a le mulet sur le dos aussi.
Voilà, non, alors...
en plus.
Mais l'État fait son travail, hein, parce que les personnes qui arrivent sur le territoire, alors qu'ils sont non-européens, qui arrivent de façon légale, qui passent par l'OFI et qui sont analphabètes, elles ont au moins 600 heures de cours.
D'accord, ok. Dès leur arrivée,
à partir du moment où elles passent par l'OFI, etc., elles sont dans le système et elles peuvent être proposées minimum 600 heures.
Ok.
Donc, ce qui est déjà pas mal.
Oui.
Après, voilà, il faut voir aussi les capacités d'apprentissage de chacun.
C'est ça, parce qu'en même temps, 600 heures, c'est pour apprendre une langue, c'est...
Bah, on est... En fait, le but quand même des cours de l'OFI, c'est de les amener jusqu'au A1. Hein.
Oui, ok.
Voilà,
oui.
C'est les amener jusqu'au A1. Mais c'est vrai que apprendre à lire et écrire, c'est en général entre 800 et 1200 heures.
Oui, voilà. Mmh. Pour le double presque, quoi. Oui, quasiment le double.
Mmh. Ouais, c'est... En étant dans un groupe homogène.
C'est ça.
Parce que voilà, les organismes de formation ont aussi ce critère-là de public qui n'est pas forcément homogène.
Ouais.
Moi, j'ai travaillé longtemps pour en faisant les cours justement CIR, CAI, enfin, contrat d'accueil, d'intégration, etc. Parce que j'étais dans l'organisme de formation qui les proposait. Et on faisait ce qu'on appelait une pédagogie en escalier, en fait, hein, puisqu'on était en entrée et sortie permanente.
Ouais.
Donc là, il y a ça aussi. Hein, donc on accueillait les personnes, et puis on revenait au point de départ, et puis on remontait, puis on revenait, etc. Donc c'est vrai qu'on a un objectif qui va être le A1. Mmh. Et après, on essaye d'y emmener le maximum de personnes.
Ouais, ouais.
Mais voilà, il faut... N'ayant pas de groupe homogène, c'est toujours un peu compliqué.
C'est des difficultés, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est des beaux métiers, ça aussi. Hein. Chapeau, encore.
Prof de FLE, oui, c'est ma première vie.
Ouais, ouais.
C'est ma première vie pendant 16 ans, ouais.
Après la maternelle. Ouais. Non, c'est clair que là, on est, on manque pas d'activité, j'ai envie de dire. Hein.
Ouais.
Y a un fort besoin au niveau des publics. Hein. Là, je ne sais pas où on en est, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, au niveau du Club Sud-Ouest, un petit peu pour boucler la boucle, donc j'évoquais tout à l'heure voilà, nos difficultés, on va dire, financières. Hein, là, aujourd'hui, en tant qu'asso, comme malheureusement beaucoup d'associations, malgré tout, comme on continue, l'idée, c'est de vraiment poser nos stratégies en termes d'associations.
Mmh.
Si je reviens au sujet de départ, qui est celui de la lutte contre l'illettrisme, hein, j'ai envie de dire un petit appel micro auprès des partenaires, voilà,
oui.
Qui sont susceptibles de pouvoir se mobiliser, en tout cas pas susceptibles, mais j'ai envie de dire, dont cette question intéresse particulièrement voilà, pour identifier les publics, je vais y arriver.
Mm-hmm.
Mais on parle beaucoup de partenaires, on va dire associatifs, partenaires prescripteurs, etc. Mais il y a aussi les entreprises. C'est un vrai sujet sur lesquels, vraiment, il ne faut pas hésiter. Si des entreprises voilà, ont envie de se pencher sur ce sujet-là, on est vraiment partie prenante parce qu'il y a des vrais sujets, notamment sur certaines branches professionnelles où on sait que ce public en situation d'illettrisme va être plus présent. C'est très lié au public, là, au public, aux secteurs qui sont dits en tension hein, et sur lesquels... avec grand plaisir qu'on puisse travailler ensemble sur cette question-là. 50% de personnes en situation d'illettrisme environ en situation d'emploi. Donc, elles se retrouvent aussi en entreprise. Et après, au niveau associatif, j'ai envie de dire que les... Voilà, les individus, structures ou autres qui souhaitent venir au niveau de l'association, soutenir l'association, adhérer à l'association, sont vraiment les bienvenus.
Oui.
Voilà.
L'appel est lancé.
L'appel
et on le relancera, d'ailleurs. C'est important. Non, c'est vrai que c'est important.
Adhérer à nous.
Oui, oui, oui.
Oui,
oui. Les difficultés, oui, là, sont... On voit le bout du tunnel ou non, c'est que le démarrage hein.
C'est pas tout à fait le démarrage. Voilà, hein, ça fait plusieurs mois qu'on traverse. Voilà, on avec est une association avec des fonds publics, des subventions annuelles.
Ouais, ouais.
On a une quarantaine de conventions annuelles pour fonctionner. Hein, donc c'est très compliqué, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, hein, on redépose, etc. Et puis l'extension à la Nouvelle-Aquitaine nous a amené à recourir à des fonds européens. Et sur lesquels on traverse des difficultés de trésorerie. On sait tous qu'on n'est pas payé en temps réel et on attend certaines enveloppes financières aujourd'hui. Bon, en clair, on a pris des mesures malheureusement douloureuses de restructuration sociale au niveau de l'association. Donc de licenciement pour sécuriser le fonctionnement de cette association. L'idée étant de perdurer, bien évidemment, dans un contexte où les subventions sont plus appelées à baisser qu'à augmenter.
C'est ça.
Voilà. On tient bon, mais c'est long, laborieux pour tout le monde, y compris les salariés, bien évidemment, quoi.
Oui.
Et avant tout.
Mmh. Voilà. Oui, il doit y avoir forcément une part de stress.
Oui, après nous, on a, pour le DPLAI, on a vraiment recentré notre focus sur l'accueil des personnes, en fait. On a vraiment mis en suspens tout ce qui pouvait être de nos fonctions, de référence, en gardant quelques-unes, mais vraiment, on a mis la priorité sur l'accueil du public, les orientations, etc., pour vraiment répondre à ce qui est le cœur de notre métier, en fait. Voilà, répondre à une demande et essayer de la satisfaire. Après, voilà, c'est une situation qui est compliquée, mais...
Mais pas insurmontable.
Non.
En tout cas, on s'accroche.
On va se serrer les coudes tous, là. Hein,
c'est ça, oui.
Et puis, ça, on a une forme d'utilité.
Bien sûr.
Je crois que ça nous tient aussi.
Oui.
Vraiment. Enfin, en tout cas, moi, ce que l'on fait a un sens. Alors, parfois, on se dit c'est une goutte d'eau. Et puis, parfois, on n'est pas très content de l'orientation que l'on fait parce qu'on a fait un peu une orientation par défaut, parce qu'on n'avait pas d'autres possibilités,
d'autres
etc.
Moyens.
Mais des fois, on est... Parfois, on a de belles réussites et pour ces belles réussites-là, on est content de faire ce qu'on fait.
Mmh.
Vraiment.
C'est essentiel, je pense que...
Oui, le travail même avec... On voit que les personnes avec qui on travaille, les partenaires, les assos, les prescripteurs, etc., ils sont vraiment investis.
Oui, oui.
Vraiment investis et présents.
Oui.
Donc... C'est voilà.
À partir du moment, c'est vrai, où on est sensibilisé aussi sur ce sujet-là, forcément, ça prend notre sens, quoi.
Ouais.
Oui, tout à fait. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu un vrai travail, une vraie compétence au niveau de l'association qui est reconnue par nos financeurs, par tous nos partenaires. Donc ça fait plutôt chaud au cœur. Et puis, j'ai envie de dire, c'est légitime parce que c'est vrai que les équipes ont une vraie compétence.
Ouais,
donc
ouais.
C'est pour ça que... Et puis, il y a une utilité. Hein. Une vraie utilité pour les publics. Donc c'est pour ça que de toute façon le sujet c'est de combattre et de continuer et de trouver toutes les alternatives possibles pour nous remettre à l'équilibre.
Oui, voilà. Oui. Bon, on croise les doigts pour 2025 là.
Exactement.
2025, notre Everest à nous.
Oui, voilà.
pas en tong.
Pas en tong.
Non. Pas en tong.
Bon, je m'étouffe du coup. Bon, super. En tout cas, on arrive déjà à la fin. C'est déjà passé. Enfin, c'est incroyable. Ça passe hyper vite, une heure.
Faudra qu'on revienne.
Mais il va falloir revenir.
Émission musicale.
Exactement. Et bien voilà, cadeau. Marie fera la prod.
Ouais, c'est ça. Les groupes de rock belge des années 90-2000.
Yep.
Ah.
Ah ouais. Overphonic aussi. J'aime bien ça. J'adore ce truc. prochain son, je crois que je l'ai déjà calé quelque part. Ce sera pas pour aujourd'hui, désolé.
Ouais.
Bon, en tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. Bravo
merci
pour ces super missions qui sont très 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 utiles et qu'il faut conserver. Vous êtes les bienvenus pour une prochaine pourquoi pas avec quelqu'un que vous suivez qui veut témoigner, des choses comme ça.
Oui,
ça pourrait être super,
avec
ça.
Grand plaisir.
Votre place est attitrée, ça y est.
Ah bon, c'est bon. On laisse nos petites affaires ici.
Voilà, vous pouvez.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Avec plaisir. Merci, chers auditeurs. Écoutez, Pierre qui roule derrière vous se termine. Il est 17h. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Et puis, on se dit à mercredi prochain.